bonjour. Vous avez rendez-vous?
Oui.
OK, vous pouvez vous asseoir et déjà avec quelqu'un. Ça sera pas bien.
Le bien-être des enfants, ça commence dès le ventre de leur maman. C'est pour ça que la Maison Bleue existe. Pour réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Et ça marche. Grâce à notre posture qui fait partie de l'ADN de la Maison Bleue, nous avons développé une approche de la périnatalité sociale unique. On vous la présente dans cette série balado. Bienvenue à Posture, le balado de la Maison Bleue sur l'intervention auprès des femmes enceintes et des familles en situation de vulnérabilité.
Je m'appelle Maya Cholette-Tétrault, je suis médecin de famille et médecin accoucheur. Je travaille dans trois différents endroits où je fais du suivi clinique puis du suivi de grossesse aussi. Donc ici à la Maison Bleue, au CLSC Parc Extension, puis aussi dans une clinique sur l'avenue du Parc qui s'appelle Refuah Vechesed, où est-ce qu'on sert principalement la communauté du Mainland, mais aussi la communauté juive orthodoxe.
Bon, mais moi, je suis Mejda Sayek, sage-femme à la Maison Bleue, ici à Parc-Ex depuis l'ouverture, depuis 2011. Je suis sage-femme depuis un certain nombre d'années et je pars à la retraite dans quelques semaines. Puis j'ai travaillé 10 belles années dans le plaisir ici à la Maison Bleue, fait que je pars le cœur gros.
Puis nous aussi, on trouve ça triste, oui!
Je suis déchirée entre mon envie de partir à la retraite et mon envie de rester parce que oui. J'aime beaucoup travailler avec le monde ici, puis les familles, tout ça, mais bon.
Ici, chaque femme enceinte a droit à un suivi conjoint, c'est-à-dire qu'elle sera vue à la fois par un médecin et une sage-femme. Dans cet épisode, on rencontre Maya et Mejda qui collaborent ensemble quotidiennement à la Maison Bleue de Parc Extension pour savoir comment ça se passe concrètement et quelles sont les particularités de ce genre de suivi.
Les tâches sont quand même définies là, selon nos différents rôles, mais avec beaucoup de flexibilité, puis on s'entraide tout le temps, tout le temps. Donc, habituellement, tout ce qui est plus médical, ça va être le médecin. Tout ce qui est intimement lié à la grossesse, ça peut être autant moi que Mejda, dépendamment de qui est là dans le moment. Puis après ça, on peut s'interchanger ces tâches-là en se passant un coup de téléphone ou en se disant « Hey, moi, j'ai vu telle patiente, j'ai besoin de lui faire tel laboratoire, mais il est 3 heures, le labo est déjà parti, tu peux-tu la revoir toi demain matin à 9 heures, puis la piquer, puis l'envoyer au labo? » Oui, pas de problème. Fait que tu sais, ça, c'est on se parle comme ça vraiment au quotidien, là. Je te dirais que la différence principale, c'est qu'une sage-femme, c'est une professionnelle d'une grossesse physiologique qui va bien. Puis nous, ben on va un petit peu plus souvent dans les complications. Fait que je pense les tâches sont peut-être divisées de cette façon-là, mais on s'entraîne beaucoup.
Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour ces patientes-là, ces clientes-là, elles ont un suivi basé un peu sur le bout qui est correct, qui est physiologique pour elles. Mais toute situation minimalement qui dévie de la normale, ben elle reste dans la même équipe, elle voit le médecin juste à côté. Parce que, tu sais, si je me compare aux clientes que je suivais dans la maison de naissance, quand on était, tu sais, comme... Il faut se lever de bonne heure là, pour aller trouver un médecin là, pour qu'il la voie parce qu'elle a une bactérie dans les urines qui ne cause pas de problème, mais qui doit être traitée. Enfin, ça prend une prescription. Je donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. C'est plus facilitant pour la femme. Je pense que si on regarde du point de vue de la femme, c'est comme juste le portrait parfait. Puis la sage-femme, l'approche sage-femme, comment je pourrais dire, c'est que ça a été prouvé par beaucoup d'études que cette continuité de personnes, ce lien de confiance donne des résultats. Il a donné des résultats genre baisse du risque de petit poids, de prématurité, comme des choses, des indicateurs durs, là, pas juste des affaires de satisfaction. Là, tu sais, ça a un impact sur l'issue de la grossesse et la santé de l'enfant. Et nos clientes sont vulnérables, donc c'est particulièrement pour des clientes vulnérables, avoir une sage-femme dans le suivi, ça donne ça de plus. Une personne, un lien de confiance, une continuité, je suis là tous les jours. Les médecins, bien sûr, travaillent à d'autres places, fait qu'ils viennent une demi-journée, des fois une journée. Mais la personne qui est la référence, ça va être moi, elle m'appelle, elles ont mon numéro de cellulaire. En plus, on a des clientes ici qui sont à Parc-Ex, souvent récemment arrivées, complètement perdues. Aucune ne savent pas où sont les ressources, comment naviguer dans le système. Donc, au moins, elles ont un numéro de téléphone, elles peuvent appeler, tout ça. Puis moi, je les dirige, je réponds beaucoup au téléphone.
Je suis Rose, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Ça fait 5 ans depuis que je suis au Canada. Je suis mère bientôt des 5 enfants. Déjà arrivée ici, c'était comme un cheveu tombé dans la soupe, là. Un monde inconnu, tu sais pas par où commencer. Mais c'est quand j'ai commencé à venir à la Maison Bleue, je suis venue pour moi, c'était que ce sera la grossesse, comment. Mais quand je suis arrivée, Anne-Marie, c'était pas seulement la grossesse. Elle voulait d'abord s'assurer comment j'allais mentalement. J'étais éblouie carrément, j'ai dit, oh mon Dieu. C'était au-delà de ce que moi j'attendais de recevoir. Et j'ai toujours cette métaphore-là de définir la Maison Bleue. J'ai dit toujours que c'est une toute petite porte, mais quand vous entrez à l'intérieur, il y a un grand espace où on reçoit tout.
J'ai voulu savoir c'était quoi la valeur ajoutée d'un tel suivi. Qu'est-ce que ça amène de positif sur la prestation de service pour la femme enceinte?
C'est toujours elle qui en bénéficie parce que cette complémentarité autour de ses besoins va faire de sorte qu'elle n'a pas besoin de s'éparpiller partout et de se perdre. Puis moi, pour moi, c'est très, très complémentaire aussi parce qu'il y a toute la partie médicale qui n'est comme pas dans mon champ de pratique. Mais pour la cliente, d'avoir la sage-femme qui est comme un peu... Puis là, on pourrait parler de portage aussi, là, c'est ce que je fais beaucoup ici à la Maison Bleue et que les médecins font aussi, mais chacun porte selon son titre professionnel, on porte différemment.
Pour moi, un des principaux avantages, c'est que dans l'approche sage-femme, il y a beaucoup d'efforts qui est mis de l'avant pour que les patientes soient des joueuses actives dans leur suivi de grossesse puis dans leur plan de santé à long terme aussi. Moi, ça m'avait frappé quand j'avais eu moi-même un suivi avec une sage-femme. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient déployés pour que tous mes choix soient éclairés, que je comprenne ce que je choisissais pour mon suivi de grossesse, que je sois d'accord avec les décisions prises, que je puisse les expliquer si je devais le faire. Donc, on a vraiment cette approche-là à la Maison Bleue aussi. Puis pour une patiente qui est vulnérable, de se faire remettre une petite part de responsabilité par rapport à son suivi de grossesse, c'est énorme. Puis ça change vraiment les données. Ça change tout parce que la patiente devient motivée, elle comprend ce qui se passe, elle sait que si elle n'a pas compris, elle peut rappeler, elle va être accueillie, elle va être entendue, on va lui réexpliquer. C'est sûr qu'ici, à Parc Extension, il y a le défi additionnel de travailler avec des interprètes parce qu'en plus, la plupart de nos patientes ne parlent ni anglais ni français. Donc, à travers tout ça, je trouve qu'on arrive quand même bien à vraiment les inclure dans l'équipe. Puis ça, c'est pour une clientèle vulnérable, c'est vraiment un game changer.
J'ai en tête le témoignage d'une femme qui a accouché puis que je suis allée voir, mais je vais aller la voir après parce qu'elle a accouché dans la nuit. Je suis allée la voir le lendemain puis quelques années après parce qu'elle continuait d'être suivie puis je l'ai revue puis je me souvenais pas, mais elle m'a vue, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, tu sais que quand j'ai eu mon bébé, tu étais la seule personne qui est venue me voir à l'hôpital. Je le dis, Michel Mottier, j'étais comme, mais voyons, juste un petit bonjour, puis comment ça va, ton bébé est beau et tout ça, là, puis raconte-moi un peu comment ça a été et tout. Fait que oui, ça fait une énorme différence.
J'ai jamais oublié, j'avais rendez-vous ici à 9h, mais j'avais déjà commencé les contractions comme la nuit, et puis je suis venue au rendez-vous. Le médecin m'a consulté, il a dit, il faut aller à l'hôpital. Vers 18h, j'ai vu la sage-femme venir. J'étais comme seule, là. Et elle a débarqué, c'est pas qu'elle m'avait dit qu'elle venait, mais elle était là, dans la salle de travail. Et j'étais, oh mon Dieu, j'ai jamais oublié ça. C'était une première fois, parce que quand j'accouche, il y a toujours mon mari qui est là. Et cette fois-là, j'étais seule. Et j'ai vu la sage-femme arriver. Je sais pas comment dire, c'est que ça m'a fait, c'était comme... Oh mon Dieu, j'ai quelqu'un. J'ai senti un soutien directement. Et elle a assisté à l'accouchement et ça fait qu'à la dernière minute, ils ont dit il fallait qu'on me fasse la césarienne, chose qui n'était pas prévue. Et comme elle était là, je me suis sentie en confiance.
Elle voit en nous comme une référence, une personne. On fait partie un peu de leur communauté, mais en plus, on vient jouer dans une partie super importante de leur vie qui est le suivi de grossesse. Fait que ça les marque. Sont vraiment, c'est tellement gratifiant de travailler avec ces femmes-là. On ne fait rien, puis là, c'est comme si j'avais décroché la lune pour elles, alors que c'est comme j'ai fait ma job. Ils sont comme super, super reconnaissants, puis ça fait une différence pour eux.
Moi, j'ai été étonnée quand j'ai commencé à travailler ici. J'avais planifié d'avoir des rendez-vous de grossesse beaucoup plus longs que dans mes autres cliniques. Puis finalement, c'est l'endroit où ça me prend le moins de temps parce que la patiente a beaucoup de temps à l'extérieur de ce qui se passe dans mon bureau. Fait qu'elle n'a pas seulement un rendez-vous aux 4 semaines qui dure 15 minutes puis qu'il faut que tu sortes dans le cadre de porte parce que tu sais qu'il y a une file de patients qui attend. C'est pas ça du tout. Là, elle peut me revoir le lendemain, elle peut revoir la sage-femme, elle peut voir la travailleuse sociale, elle peut voir l'infirmière. Il y a beaucoup de gens qui peuvent la voir. Alors souvent, moi, les patientes vont sortir de mon bureau puis la demi-heure n'est pas terminée. Puis au début même, ça me gênait. Je me demandais, ben voyons, comment ça me prend autant, aussi peu de temps? Il me semble que je suis disponible. J'étais ouverte aux questions. Mais il y a plein de questions qui sont répondues par plein de mes coéquipières. Fait que c'est vraiment... vraiment très, très, très efficace au niveau de la gestion du temps aussi. Fait que ça, c'est une grosse différence, je pense, de ne pas avoir le stress d'avoir juste quelques minutes comptées avec la personne qui s'occupe de ta grossesse.
Et des fois, elles vont être inquiètes. Elles se présentent sans rendez-vous. Ça va les rassurer pour plein de petites inquiétudes. Ah, elle a glissé, elle est tombée sur la glace. Je la fais rentrer, je l'examine, j'écoute le cœur. Si je vois que, tu sais, j'explore un petit peu plus quel genre de chute et tout ça. Des fois, c'est comme, ah, je sens pas mon bébé bouger, elle m'appelle, elle vient. C'est aussi, c'est comme un crochet qu'elles font par la Maison Bleue pour être mieux dirigées, pour pas aller pour rien, pour pas manquer d'y aller quand c'est nécessaire d'y aller. Tu sais, je veux dire, on a eu des catchs là, incroyables avec ces affaires-là, où est-ce qu'on a catché une pré-éclampsie, un enfant qui était compromis à cause d'un accident ou des choses comme ça, juste parce que je lui dis viens. Elle appelle, je lui dis viens, ou elle rentre, puis je la vois, puis je l'examine, et je texte le médecin après, j'ai envoyé ta cliente à la salle d'accouchement. Puis le médecin communique avec l'équipe là-bas, puis elle est attendue, ils savent c'est quoi et tout. Fait qu'encore une fois, le bénéficiaire, c'est la cliente. Des fois, quand elle ne se présente pas, ça se revire contre nous. Là, la patiente n'est pas... Là, je reçois des messages. Là, j'appelle. Pourquoi tu n'es pas allée? Oh, finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Ah ben, vas-y. Tu es attendue, puis tu y allais pour une bonne raison. Des fois, quand je sens qu'elle risque de ne pas y aller, puis je veux qu'elle y aille, je ne la lâche pas, je l'embarque dans un taxi.
Mais tu sais, tout ce que tu décris, mais je dis, un médecin tout seul ne peut pas faire ça.
Non.
On n'a pas ce temps-là. Puis, en tout cas, pour moi, ça ne serait jamais parce que je ne voudrais pas faire ça, mais c'est vraiment précieux. Puis, tu sais, des fois, là, dans une clinique où je n'ai pas ces ressources-là, il y a des patients que je trouve difficile de laisser partir parce que je suis pas 100% certaine qu'ils ont compris ce que j'avais dit. J'ai expliqué justement, tu sais, super clairement avec un interprète pourquoi je pensais qu'ils devraient se rendre au case room aujourd'hui. Puis des fois, j'apprends qu'ils sont pas allés. Puis là, je vais essayer de les appeler, mais là, je suis de chez moi le soir à 9h30, donc j'ai pas d'interprète. Je comprends pas trop ce qu'ils me disent. Ils comprennent pas trop ce que je dis non plus. Fait qu'il y a beaucoup de stress là-dedans aussi. Puis, tu sais, moi, je sens que je pourrais pas arriver à bout de faire un vrai suivi complet comme je le veux. T'sais, avec tout mon cœur, si j'avais pas plein de membres de l'équipe pour le faire avec moi, ça prend plus qu'une personne.
Aujourd'hui, moi, j'ai rien pour le moment. Laissez-moi voir. Ah, j'ai 2h30 avec la sage-femme, en fait. C'est ça.
On voudrait toutes bénéficier de ce genre de suivi-là, autant du côté patient que du côté professionnel. Mais il doit y avoir des défis à travailler conjointement.
Bien, le défi, c'est que quand il y a plusieurs personnes dans un dossier, je pense qu'il faut que chaque personne se sente quand même intégralement responsable du patient, puis ne pas nécessairement assumer que c'est pour moi, par exemple, que c'est la sage-femme qui a fait le test de diabète parce que c'est elle qui a vu ma patiente à 26 semaines. Non. T'sais, moi, je vais aller regarder dans les laboratoires pour être sûr que c'est fait. Je pense que Mejda fait la même chose parce que ça serait trop facile, surtout vu qu'on se fait confiance. On sait que l'autre travaille de façon compétente, mais quand même, on est des êtres humains. Des fois, tu sais, peut-être qu'il y a eu un rendez-vous manqué que moi, j'ai pas vu ou que Mejda a pas vu. Fait que ça, c'est quand même un défi, là, de, tu sais, la documentation, puis de s'assurer qu'il y a rien qui tombe entre deux cracks, là. Ouais.
J'ai demandé à Maya et à Mejda si elles avaient un conseil à donner à un professionnel qui aimerait travailler avec une clientèle plus vulnérable. Ce serait quoi?
Je pense que moi, mon conseil, ça serait d'être très... dans une posture d'écoute. Tu sais, souvent, en médecine, nous, bien, c'est sûr qu'on écoute notre patient, puis après ça, on donne des recommandations. Mais je trouve qu'avec des patientes vulnérables, il faut que notre posture d'écoute soit vraiment solide, puis peut-être même un peu exagérée. Parce que des fois, à vouloir aider quelqu'un ou lui donner des recommandations sans vraiment comprendre, elle, c'était quoi sa demande, surtout quand il y a une barrière de communication liée à la langue ou pas, bien, on va pédaler dans le vide. Fait que je pense que mon conseil, ça serait ça, de prendre, d'allonger un petit peu la période qu'on prend d'habitude pour écouter la patiente, de l'allonger un petit peu. Puis des fois, ça nous fait sauver beaucoup, beaucoup de temps puis d'énergie en bout de ligne, ou ça va nous faire réaliser qu'il y a certaines choses qui, pour nous, étaient vraiment acquises, qu'on doit en fait expliquer super clairement, même avec un dessin des fois. Puis là, tout va changer à partir de ce moment-là parce que la patiente vient de comprendre que cette histoire-là, c'est super important finalement. Puis une fois qu'elle comprend, ben oui, elle veut faire ça elle aussi, tu sais.
Ben moi, je pense qu'il faut être dans le non-jugement, la tolérance, l'ouverture d'esprit, parce que on va être confronté des fois dans nos propres valeurs de certaines choses, puis il faut pas tomber dans le jugement, même si après on retient notre souffle. Avoir beaucoup de patience aussi pour travailler certaines choses, parce que des fois on arrive puis on a comme ça à travailler, mais elle ne le voit pas, elle, que ça, c'est à travailler. Fait qu'il faut attendre patiemment. On a vu des situations où est-ce qu'on voyait qu'il était violent, il était comme super arrogant avec elle, mais ça va très bien à chaque fois. On pose la question délicatement, non, ça va très bien, ça va très bien. Mais nous, on sait comme potentiel de violence conjugale jusqu'au jour où elle arrive avec des bleus, puis elle me dit, j'ai déballé les escaliers. J'étais comme, OK, ma fille, non, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, parce que... Puis elle avait déballé les escaliers, effectivement, mais c'était lui qui l'avait poussé, là. Parce qu'elles se font dire, oh, si tu dis que ton mari t'a frappé, ils vont te prendre ton enfant. Fait que là, nous autres, il faut vraiment qu'elles nous fassent confiance pour qu'on puisse les accompagner là-dedans, pour qu'elles puissent nous le dire, parce que sinon, elles ne nous le disent pas. Mais ça fait partie des choses que, tu sais, des fois, on voit, puis c'est latent, puis on dit, bon, mais là, tu sais, on essaie, mais elle veut pas, tu sais, ça va exploser. Puis là, on dit, bon, mais malheureusement, c'est arrivé, mais on le voyait venir, donc des fois. Mais il faut être patient, il faut être compréhensif et tolérant au fait qu'elle nous le dit pas.
Parfois, c'est difficile d'être dans le non-jugement et la tolérance parce que ça nous demande d'accepter l'impuissance. Mais ça peut aussi faire naître des histoires magnifiques qui donnent un sens à notre travail.
Je pense à un suivi de grossesse en particulier d'un couple super jeune. Au début, on n'était pas certain comment ça allait se passer. T'sais, durant toute la grossesse, on était inquiets. On se demandait s'ils allaient pouvoir garder leur enfant ou pas. Puis c'est un couple qu'on a accompagné de façon vraiment rapprochée. Puis ces parents-là ont eu le bébé, puis ça s'est bien passé. Puis ils ont gardé le bébé. Puis je pense qu'ils ont été vraiment responsabilisés. Puis on les a vus grandir. On les a vus arriver préparés en ayant lu, regardé des vidéos. Puis tu sais, pour vrai, ça, c'est une récompense vraiment qu'il n'y a pas de nom pour nous. Là, c'est un enfant qui va grandir avec ses deux parents qui sont compétents, puis qu'on a vraiment porté d'un endroit où on était super inquiet à un endroit où on est en confiance.
Oui, puis pour cette cliente-là, parce que je sais de qui elle parle, pour vrai, elle nous a été référée comme un peu plus tard dans la grossesse, puis la travailleuse sociale de l'endroit où elle nous l'a présentée carrément comme genre, c'est même pas nécessaire de mettre du temps là-dessus, là, cet enfant-là sera placé de l'hôpital. Hey non, on a vu le potentiel, on a travaillé avec le potentiel de cette famille-là. On n'avait pas vu le conjoint, on avait une image très différente quand on a vu qu'est-ce que je t'ai dit,
oui,
pour le conjoint.
Le conjoint, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est ça? Je m'attendais à voir un monstre. J'ai vu un petit.
C'est vrai, on avait reçu un rapport du conjoint qui était super négatif, même qui nous inquiétait, parce que souvent les gens vulnérables sont stigmatisés. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous pour communiquer. Dans une situation frustrante, ils peuvent être un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus. Abrupt ou répondre d'une façon un petit peu plus sec, avoir l'air plus fâché. Mais nous, ici, on passe tellement de temps avec eux qu'on va se rendre compte finalement que cette personne-là a eu un saut d'humeur, mais en fait, c'est une soie, puis elle n'est pas du tout violente, puis elle est super impliquée. Mais si le rapport est fait rapidement par quelqu'un qui a juste eu le temps de le voir une fois pendant 15 minutes, puis que ce n'était pas une interaction qui était positive, bien, il y a comme une étiquette super péjorative dans le dossier de quelqu'un, puis malheureusement, ça va le suivre longtemps. Puis ça peut avoir des grosses conséquences, tu sais.
Puis ça pourrait entretenir cette aspect de lui, parce qu'il se sent jugé, il se sent agressé. Puis finalement, quand il est arrivé dans un nouveau environnement, on ne le connaissait pas, on avait une petite crainte parce qu'on s'était fait... Mais on est parti dans le non-jugement total, puis on a dit, bon, OK. Puis là, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, non, ce gars-là, ce n'est pas ce qu'on m'a décrit, ou alors je suis complètement dans le champ. Puis là, j'en ai parlé au médecin. Elle aussi, quand elle avait dit, je suis d'accord avec toi, il est comme, c'est sûr, tu sais, il a vécu des choses difficiles dans sa vie, ce gars-là, mais... C'est pas un monstre comme on le voyait, puis qu'il faut surtout pas qu'il prenne soin d'un enfant. Il était même allumé, il allait vérifier. Il me dit, j'ai vérifié ta affaire sur Internet là, pour le bébé. J'étais comme... Fait que des fois, c'est ça, c'est les accueillir, ne pas les juger, leur donner une chance, voir un peu puis aller chercher le potentiel, c'est ça, le empowerment, voir un peu leurs forces, puis travailler leurs forces, les porter pour les affaires qui sont plus difficiles pour elles, mais tout le monde a des faiblesses et des forces. Fait qu'il n'y a pas personne qui a juste des faiblesses, mais si on ne cherche pas à trouver leurs forces pour tirer par là, ben, ils se ramassent toujours comme acculbutés dans le système comme ça, puis jamais se faire, jamais avancer. Ça fait, il a un an, là, le bébé, là. Mm-hmm. Ils sont encore là, puis ils s'en occupent, ils ont des limites, ils ont vécu des choses difficiles. C'est pas parfait, là. Ils ont leur bébé, puis ils sont heureux, puis le bébé est bien.
C'est vrai que les grossesses, elles ne se ressemblent pas. Il y a toujours une particularité pour chaque grossesse. On ne peut pas se dire que je suis déjà bien outillée. Il y a toujours quelque chose de nouveau là qu'on découvre à chaque grossesse. Mais ce qui est important, c'est d'avoir confiance que tout va très bien se passer. Comme là, je sais que tout va bien se passer et voir ce que j'ai vécu avec la maison bleue. C'est-à-dire que je ne me sens pas trop chargée, non. Je dis que j'ai des gens sur qui je peux me référer. J'ai des gens chez qui je peux apprendre quelque chose. J'ai des gens qui peuvent m'aider. Et tous ces gens-là sont ici à la Maison Bleue.
Je me suis demandé, pour un suivi conjoint auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité, quelle posture d'intervention il serait bon d'adopter?
Une posture de flexibilité puis d'empowerment. Fait que vraiment, le plus tu t'éloignes de la rigidité quand tu accompagnes des familles vulnérables, puis le plus d'efforts tu fournis à leur remettre du pouvoir entre les mains, je pense que le mieux, ça va se dérouler et pour toi et pour les familles que tu accompagnes.
Je rajouterais aussi cette capacité de s'adapter, là, mm-hmm. parce que si t'as pas la capacité de t'adapter facilement comme ça, tu vas avoir de la misère à travailler à la Maison Bleue. On a eu une fois des gens qui sont venus faire des remplacements, des infirmières ou des choses comme ça. Elle avait de la misère. Mm-hmm. Elle dit, mais là, qu'est-ce que vous faites? La cliente, elle ne s'est pas présentée. Mais ça fait partie de notre vie, les no-shows à la Maison Bleue. On la recédule, on attend, elle arrive plus tard, on la prend. Alors oui, je pense que cette capacité de s'adapter à l'imprévu, c'est vraiment, il faut être dans cette posture-là de non-jugement, tolérance.
Il y a eu une annulation, en fait, dans ton horaire. OK. Je peux y renvoyer un message. Le problème avec Béchir, c'est que son numéro de téléphone ne fonctionne pas. Fait que j'envoie des courriels, puis un interprète, ouais. Ce que je me propose de faire, c'est de regarder avec Annika quand elle aura fini son rendez-vous, là, le rendez-vous de vaccination.
Souvent, mes amis vont me dire, ah ouais, tu travailles à la Maison Bleue, OK, c'est quand même des suivis lourds. Puis je dis, ouais, mais moi, c'est jamais ça mon feeling. Moi, quand je viens ici, je viens me poser parce que je suis pas toute seule. On est une équipe, fait que c'est un travail qui est exigeant, mais c'est pas ardu ou difficile, c'est agréable. Puis ce qu'on fait ici, pour moi, c'est toujours positif. Tu peux rien apporter de négatif à une famille de personnes vulnérables. Tout ce que tu peux faire, c'est améliorer un petit peu leur situation, puis des fois beaucoup.
Moi, j'adore travailler avec les médecins ici, avec toute l'équipe, et je travaille dans le plaisir. À travers, des fois, on rit de certaines situations, même difficiles. Pas on rit d'elles, mais on rit de la situation, puis on dit mieux vaut en rire, hein, des fois. Avec Anne-Marie, tout ça, même la Cordeau qui est là depuis juste un an, elle était comme « Ah, mais là, je remarque que Mejda et toi, faites de l'humour, ça nous aide aussi. Des fois, c'est lourd, là, tu veux pas pleurer, fait que tu ris. Ça va me manquer. » C'est comme j'ai été approchée pour aller, je suis comme « Non, moi, je veux prendre ma retraite de la Maison Bleue. Je continue ici parce que c'est plaisant de travailler ici. » Les familles sont très attachantes. Elles vivent des choses difficiles, mais elles sont tellement attachantes. Je m'en vais, puis à quelque part, mon cœur va rester ici. Et puis le travail comme ça, avec une équipe extraordinaire, avec des gens si extraordinaires, c'est comme un cadeau pour moi de finir ma carrière ici à la Maison Bleue. Fait que puis j'arrête parce que sinon...
Oui, ça suffit.
Même moi, je ne comprenais pas.
Vous venez d'entendre la médecin Maya Cholette-Tétrault et la sage-femme Mejda Sayek nous parler des avantages et des défis d'un suivi de grossesse conjoint. Ce que je retiens, c'est que oui, ça prend une maman pour porter un enfant, mais ça prend toute une équipe pour porter une grossesse dans un contexte de vulnérabilité. Pour en savoir plus sur les différentes facettes de l'approche de la Maison Bleue, écoutez les autres épisodes du balado Posture au www.maisonbleue.info.